pratique par le premier Dominique Philippe le 16 mai 2002 à Saint-Gédard.
La dernière fois, je vous avais parlé de cette abstraction la plus naturelle, ce passage de regarder l'individu et la découverte de l'universel. Ça, je crois que tout le monde parle le langage. Ce qui est au fond terrible, c'est que le progrès de la science, de la connaissance, disons, ne se fait plus par l'expérience, elle se fait par le livre. On fait des progrès intenses par le livre, sans expérience. Alors, ce qui fait qu'au fond, on ne vit plus selon le rythme de l'intelligence. Je crois que ça a été une très grande transformation, ça, le livre. Et aujourd'hui, alors, ça va toujours plus loin. Il y a une seconde transformation complète. Et je parle par rapport à l'abstraction de l'intelligence. Bon, la première abstraction, qu'on appelle l'abstraction universelle, c'est la découverte de l'universel. L'enfant, au point de départ, c'est toujours papa. Tous les hommes sont papa. Toutes les femmes, c'est maman. Et puis, il arrive un moment, c'est très curieux du reste, où il arrive à distinguer l'homme et papa. Donc, il passe de l'individu à l'universel. Et ça, vous n'avez pas conscience de ça. Vous apercevez une fois que vous le faites. Enfin, vous faites, vous apercevez en effet que c'est pas la même chose. Le premier individu, comme individu, pour l'enfant, c'est papa et c'est maman. Ce sont des individus. Et puis, il y a le passage à l'universel. Et qu'on appelle ça, alors, l'abstraction universelle. Et ça se fait automatiquement. Quand vous apprenez le langage, vous avez des mots abstraits et puis le point de vue concret. L'abstrait et le concret. Comment vous êtes arrivé à l'universel, à homme, le passage de papa à homme? Vous n'avez pas conscience qu'un s'est fait ce passage. Vous le constatez. Et vous avez tout de suite différents types, et c'est ça, je crois, alors c'est très important, différentes modalités de l'universel. Et Aristote est le premier, il faut le reconnaître. Alors ça, il faudrait voir dans d'autres langues ce passage de papa à universel. Parce que l'écriture manifeste ça. Et l'écriture est très différente pour le chinois et pour le monde dans lequel nous sommes. Il y a différents types d'universels qu'il faut absolument ça bien comprendre. Le genre, différents spécifiques, espèces, propriété, accident. Vous avez cinq types. Alors, je me suis posé la question, et je crois qu'on doit se la poser, est-ce que ça correspond à nos cinq sens ? Parce que dans l'expérience, vous avez une expérience auditive, visuelle, tactile, gustative et l'odorat. Vous avez donc comme emprise du réel cinq modalités. Autre chose est de connaître en touchant. Autre chose est de connaître par le son. Autre chose est de connaître par l'odeur. Autre chose est de connaître en mangeant. Et au fond, chacun d'entre nous, nous sommes plus ou moins développés du côté auditif, du côté visuel, du côté tactile. Les tailleurs de pierre sont très développés du côté tactile. Et c'est vrai, quand vous voyez une belle statue, vous avez envie de la toucher. On ne peut plus dans les musées. Dès que vous touchez une statue, ça sonne. Et c'est terrible, hein, au fond. Ça enlève quelque chose à la connaissance. Parce que la pierre, elle demande d'être touchée. Le bois doit être touché. Et la culture moderne développe la vue et l'ouïe. Une fois, faisant de l'autostop, j'avais été pris par quelqu'un qui était très artiste dans l'ordre des parfums. Et on a bavardé pendant longtemps, parce que ça m'intéressait beaucoup de voir comment il arrivait à découvrir des parfums nouveaux. Parce que il était génial, parce que c'était pas uniquement le commerçant, hein, du parfum. C'était celui qui, appartenant à une grande maison de parfums, avait comme rôle de découvrir des nouveaux parfums. Alors je me suis interrogé beaucoup pour voir comment il faisait. Et c'était extraordinaire, comme, parce qu'il avait ça, lui, dans le nez. Vous voyez, alors, nous avons contact avec le réel de cinq manières différentes. Il est normal que, par ces cinq manières différentes, nous avons cinq modalités d'universel. Et ça, on ne le voit jamais, mais c'est très intéressant, parce que ça nous montre comment celui dont le point de vue auditif est très développé, celui du point de vue visuel, il y a des types d'abstractions différentes. Et je dirais, vous n'avez pas conscience, vous pouvez en prendre conscience, vous pouvez prendre conscience que vous êtes beaucoup plus sensible au son, vous êtes beaucoup plus sensible à l'odorat, vous êtes beaucoup plus sensible à la vue. Et cela vous donne donc des types tout à fait premiers. Le genre, la différence spécifique. Vous voyez, prenez pour l'homme le genre animal. Différence spécifique, rationnelle. Je suis en logique, hein, là. Et la logique regarde les définitions. La définition n'est pas philosophique. Elle est logique. Et très facilement, la logique prend le pas sur la philosophie. Et on croit que la définition, c'est philosophique. Non, c'est pas philosophique de définir, c'est logique. On a besoin de définir par le genre et la différence spécifique. Le genre montre l'étendue et la différence spécifique précise. Animal, raisonnable. Et l'espèce, c'est l'union entre animal, entre le genre et la différence spécifique. Vous avez l'espèce. Puis vous avez la propriété. Capable de sourire. C'est ça la propriété. C'est pour ça que quand vous êtes en face de singes majestueux et puissants, ne souriez pas trop avec votre voisin. Ça les met en colère. J'ai fait l'expérience. Parce que font un singe ne sourit pas. On a essayé de faire que le singe parle. Alors, il a des sons. Il ne parle pas, en réalité. Il a des sons, mais il ne sourit pas. Pourquoi la mère est-elle tellement attentive à son enfant? Premier sourire de l'enfant. Et c'est charmant. Et au point de vue sculpture, ça a été les Grecs qui ont saisi le sourire de l'enfant. C'est pas l'Égypte. Et ça dit beaucoup de choses. Parce que les Grecs ont été très sensibles au mouvement. Et alors, dans leur sculpture, le mouvement est une chose primordiale dans la philosophie, dans l'art grec. Et le sourire. Le sourire est la propriété de l'homme. Quelqu'un qui ne sourit jamais, c'est grave. Il y a quelque chose qui lui manque. Et l'accident, c'est ce qui vient s'ajouter de l'extérieur. La propriété jaillit de l'intérieur, tandis que l'accident vient de l'extérieur. L'habit est un accident. L'habit n'est pas une propriété. Quand on dit que le moine, oui, il a tel ou tel habit, mais ça dépend, ça varie. La mode, c'est accidentel, c'est pas la propriété. L'habit est accidentel. Alors, selon l'usage, selon les coutumes, l'habit peut prendre une signification autre. C'est ça l'habit du moine. Il prend une signification. Tandis que l'habit ordinaire, c'est les modes. Alors vous avez d'abord en vous l'intelligence qui se développe premièrement par les cinq prédicables. Et on appelle ça les cinq prédicables. Parce que dans toute attribution, il y a toujours le sujet, l'attribut. Et le sujet, c'est du côté générique. Et l'attribut, c'est quelque chose de qualitatif. Donc, on parle, et dans toute langue, le point de vue du genre, différent spécifique, existe. Et c'est très intéressant, quand on a le temps de le faire, de prendre un article du journal et de voir l'article, qu'est-ce qu'il saisit? Est-ce qu'il saisit l'aspect générique, l'aspect spécifique, l'aspect propriété ou l'aspect accident. Et c'est très intéressant pour voir la qualité du journaliste. Un journaliste ordinaire demeure dans le genre et les accidents. un journaliste qualifié a alors lui saisi les propriétés. Et c'est ça les articles qui sont importants. Tandis que quand on reste dans le genre et la différence et le genre, les accidents, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le genre et les accidents. Mais c'est intéressant d'analyser cela. Alors, on dit là qu'on est dans l'univocité. Alors, l'univocité, c'est qu'on saisit quelque chose de l'intelligibilité de la réalité, et que ce quelque chose est le même dans tous ceux qui, génériquement, possèdent cela. Tous les animaux, ce sont des vivants qui se meuvent de façon très diverse. Hein. L'homme et la vache, pas seulement parce que l'un a quatre pattes et l'autre en a deux, mais la vache est ordonnée à brouter. C'est ça qui l'intéresse. Elle est toujours tournée vers l'herbe qu'elle broute. Puis de temps en temps, elle lève le nez. Mais elle revient tout de suite. Vous voyez ? Les sens s'organisent vers une certaine finalité. Tous. Le point de vue de la connaissance par genre, différents spécifiques, nous demeurons dans un aspect univoque. Il y a le genre animal, la différence spécifique rationnelle ou non rationnelle me permet de définir. La définition, c'est l'opération la plus commune, la plus générique de notre intelligence. C'est notre intelligence rationnelle, ça. Et on demeure à ce niveau-là. L'intelligence humaine va s'élever très vite à une abstraction qu'on dit formelle. Et la première dimension de l'abstraction formelle, c'est l'apparition des mathématiques. C'est très intéressant de voir ça. Le mathématicien, géomètre ou arithmétique, on est en face d'une abstraction tout autre. Dans une abstraction, hein, voyez bien ce que c'est hein, que l'abstraction. C'est saisir quelque chose du réel par le genre. Vous saisissez quelque chose de réel, ce qui est commun à tous les vivants. Ils sont vivants. Ce qui est commun à tous les êtres non vivants. Ce qui est commun à tous les vivants qui marchent à quatre pattes, à tous les vivants qui volent. Ils ont deux pattes et deux ailes. Ils ont quatre pattes, donc. Et il y a, à la place que ce soit les mains, il y a les ailes. Et vos mains, ça peut servir d'aile. Apparaît un type de connaissance très particulier qui est l'abstraction mathématique. Et c'est très intéressant de regarder ce que c'est que l'abstraction mathématique. C'est le premier type d'abstraction qui n'est plus l'universel commun. Le mathématicien va dégager, abstraire, dégager. L'abstraction, c'est toujours dégager. C'est saisir quelque chose et abandonner le reste. Donc, dans l'abstraction formelle, on voit déjà cette sélection. On va saisir l'être mathématique. Et c'est très important de saisir ce que c'est que l'être mathématique. L'être mathématique, ce n'est pas l'être, la réalité que vous touchez. Ce n'est pas la réalité que vous voyez. Vous n'avez jamais vu l'être mathématique. Vous pouvez l'imaginer intellectuellement. Et c'est intéressant de saisir qu'est-ce que c'est que l'être mathématique. Les mathématiques se développent dans les relations. Oui, c'est la naissance de l'intelligence qui dépasse l'expérience. L'expérience, vous êtes pris par l'expérience, vous touchez, vous palpez, vous entendez. Il y a un nouveau type, et c'est le premier qui saisit la relation. Une relation qui est toujours dans l'ordre du divisible. L'être mathématique, c'est saisir non pas l'être sensible, mais c'est l'être divisible et qui est toujours en relation avec un autre. C'est un être relatif. Les mathématiques se développent dans ce premier type d'abstraction qui est de saisir le divisible. Et les mathématiques se développent là énormément quand vous voyez actuellement le développement des mathématiques. C'est intense. Il y avait chez les dominicains quelqu'un qui était très fort en mathématiques, le père Gérard du Laurier. Quand il préparait sa thèse, je me souviens bien, et je l'aimais beaucoup, on s'entendait très bien, et il était très matheux. Et je lui demandais à sa thèse, combien de personnes comprendront sa thèse? Alors il réfléchissait, il y a 20 ans de ça, même plus, 100 ans, il réfléchissait, et je crois qu'il y aura 3 personnes qui comprendront ma thèse. Il dit ça très humblement, non? Je crois qu'il y aura 3 personnes, les autres ne comprendront pas. Et c'est vrai, il y a une sélection très aristocratique de la connaissance mathématique et très poussée. On comprend très bien la grande séduction mathématique. C'est la première façon dont je dépasse le monde immédiatement expérimental. Vous n'avez pas d'expérience, là, mais vous avez l'intuition. Ah. Tout de suite, on voit la différence entre l'expérience et l'intuition. Le premier type d'intuition, c'est l'intuition mathématique. Le type des relations, parce que l'intuition saisit une relation. Qu'elle soit réelle ou qu'elle soit pas réelle, c'est une relation. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait très important pour nous, c'est que, à l'égard des prédicaments, vous savez ce que c'est que les prédicaments. Les prédicaments, c'est tout ce qu'on peut attribuer à une réalité. Substance, quantité, qualité. Il faut savoir les 10 prédicaments. C'est Aristote qui a découvert les 10 prédicaments. Vous dites, quand vous voyez Pierre, Pierre est un homme, substance. Pierre est grand, qualité, quantité. Pierre a un nez pointu, qualité. Avoir un nez pointu, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il n'y a pas que le nez qui est pointu. Il a des oreilles particulières. Il a des yeux spéciaux. Et la qualité, tout de suite, au point de vue de l'homme, se regarde les yeux, un regard fulgurant, qui attire, qui séduit. Vous êtes toujours séduit par le regard. Comme disait un bon vieux permette, très, très spécialisé, il dit, oh, ce qu'il faut, c'est être très attentif au regard. Parce que c'est toujours par les regards qu'on voit les liens d'amitié, les relations. Et c'est vrai, c'est... Alors, qualité, quantité, relation. Ah, la relation a ceci tout à fait particulier. C'est unique. La relation est réelle ou de raison. C'est le prédicament qui quitte l'aspect existence. Une relation est réellement relation même quand elle n'existe pas et qu'elle est uniquement dans l'intelligence. Or, c'est parmi les prédicaments, les 10 prédicaments que vous devez savoir, les 10 prédicaments, substance, qualité, quantité, relation, le situs, le temps. Le temps est un prédicament. L'action, la passion. Alors, l'action et la passion, vous avez dit ça, il en reste 2. Mais vous savez quoi, vous les regarderez. Et alors, parmi les prédicaments, il y a un prédicament qui échappe à son caractère d'être toujours réel. La relation peut être une véritable relation uniquement dans l'intelligence. Alors on l'appelle relation de raison. Et c'est la plaque tournante qui permet de s'évader du réel et de rester uniquement dans ce que l'intelligence comprend, l'intelligible. L'intelligible mathématique est l'être relatif. Le mathématicien ne dépasse jamais la relation. Mais il va très loin dans la relation. Or, la relation, elle est ou réelle ou abstraite. Ou de raison. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Parce que ça nous fait comprendre comment on peut s'évader du réel. Le point précis où on peut s'évader du réel, la porte par laquelle on peut s'évader, c'est la relation. Or, l'être mathématique est un être relatif. Et c'est pour ça que les mathématiques peuvent se développer absolument en dehors du réel. Parce que c'est la relation. L'être mathématique est relatif. Or, dans toute relation, Aristote dit très justement que la relation est l'être le plus débile. C'est très joli du reste. L'être le plus débile, c'est justement parce que la relation n'est pas toujours une relation réelle. Mais c'est une vraie relation. La seule chose que l'intelligence peut créer, je dis bien, peut créer, c'est la relation. Et l'intelligence aime de créer des relations. Parce qu'elle est chez elle, là. C'est quelque chose qu'elle réalise par elle-même. Parce que la qualité, bah oui, la qualité est réelle. Vous pouvez pas inventer une qualité. Vous imaginez pas, la quantité aussi, c'est réel, c'est le divisible. La qualité, c'est ce que vous pouvez toucher, atteindre. L'action, bah oui, c'est réel. La passion aussi. Le situs aussi, le lieu où vous êtes, le lieu. Tous les prédicaments, les 10 prédicaments, sont réels. Mais il y en a un qui est réel et de raison. C'est la relation. Ça, c'est Aristote qui a découvert ça. Il l'a découvert en face de Platon. Il l'a découvert pour montrer que Platon s'évadait. L'intelligence liée à l'imagination, liée au divisible que vous pouvez saisir d'une façon imaginative, une imagination très rationnelle, hein, l'imagination du romantique, l'imagination de l'artiste, l'imagination du mathématicien, ce sont des imaginations très différentes. L'imagination, c'est ce qui permet d'aller à droite et à gauche. L'imagination, elle ne vient pas directement du contact avec le réel. L'imagination, c'est une faculté que nous avons tous, plus ou moins développé, mais qui nous permet de décoller. Quand vous vivez dans une distraction imaginative, vous décollez du réel. L'imagination me permet d'aller très loin. Je vis dans des relations. Alors, c'est très curieux, et ça, c'est très important de voir ça, de voir comment naît la première abstraction formelle. Donc, vous voyez, deux types d'abstraction. L'abstraction universelle, celle-là, vous ne la choisissez pas, nous l'avons tous. À moins, évidemment, d'être quelqu'un en qui l'intelligence n'est pas développée. Alors, quelqu'un en qui l'intelligence n'est pas développée, il n'y a pas d'abstraction universelle. Mais normalement, le langage repose entièrement sur l'abstraction universelle, ou générique, ou spécifique, ou propriété, ou accident. Il y a 5 manières d'être intelligent. Premier développement. Et oui, mais c'est intéressant que tout de suite, dès le point de départ, vous avez 5 développements. Ensuite, premier moment de l'abstraction formelle, l'abstraction mathématique, où l'intelligence sépare. en la priant, elle sépare. Elle veut ne saisir que l'être divisible. Le mathématicien saisit l'être divisible, quantifié et divisible, parce que ce n'est pas la quantité bête. La quantité bête, je la touche, la quantité bête. Mais c'est la quantité intelligible. C'est la relation que mon intelligence peut faire. Arriver à dire 1, 2, 3, mais en abstrait. Quand vous comptez bêtement 1, 2, 3, vous ne regardez pas la qualité des personnes. 1, 2, 3, vous pouvez mettre 3 génies, vous pouvez mettre 3 imbéciles, ça revient au même, ça revient au même. Je ne regarde que le nombre. Le nombre, c'est le divisible. La géométrie, c'est la figure. C'est très curieux, ce domaine mathématique. Et le domaine mathématique s'est développé d'une façon étonnante, d'une façon massive et dans une extension étonnante. Mais c'est toujours le même. Elle n'atteint pas le réel existant directement. Le réel existant est dépassé pour voir le divisible. Et c'est le divisible qu'on atteint, qu'on développe. C'est en ce sens-là qu'il y a entre le matheux et le poète. Ah, une diversité très étonnante. Ce sont les deux développements de l'intelligence au-delà de l'abstraction universelle. L'artiste du côté visuel, c'est le peintre. L'artiste du côté auditif, le musicien. L'artiste du côté odeur, parfum. L'artiste du côté culinaire, le goût. Vous avez des arts par rapport aux cinq sens. Mais l'art, à la place de chercher le divisible, cherche la qualité. L'originalité propre de la qualité. Vous voyez, qualité, quantité. Vous avez là deux développements intellectuels tout à fait différents. C'est toujours très intéressant de mettre un matheux en face d'un artiste. Et saisir un artiste, c'est saisir la qualité. La qualité du son, de l'harmonie. L'artiste est beaucoup plus proche du réel que le matheux. Le matheux, il développe la relation selon son mode particulier et selon les nécessités des mathématiques. Mais c'est deux développements diamétralement opposés. Et c'est les deux premiers développements. On passe de l'intelligence rationnelle, genre différent spécifique et tout ça, à quelque chose de très différent je suis le mathématicien et je suis l'artiste. Et puis, il y a une troisième manière de développement de l'intelligence. Il y a le développement de l'intelligence du côté moral, avec l'amour, et qui conduit à l'amitié. Et il y a là un développement spécial. Vous avez donc trois développements de l'intelligence qui sont très réels et qui ont leur profondeur, leur intérêt particulier. L'inconvénient des mathématiques, c'est que, saisissant la relation et non pas le bien de l'homme, les mathématiques ne saisissent pas la finalité de l'homme, mais saisit et peut saisir la beauté de l'harmonie. Une certaine beauté, c'est-à-dire une beauté dans la relation. Le développement de l'artiste ne saisit pas non plus la vraie finalité de l'homme, mais saisit ce que l'homme est capable de réaliser, un monde idéal de beauté. Point de vue troisième, c'est le point de vue de l'amitié. L'amour. L'amour d'amitié. Il y a trois développements de l'intelligence avec l'abstraction formelle qui est différente chez le mathématicien, chez l'artiste, chez l'ami. Trois types d'abstraction formelle. Et dans l'abstraction formelle, vous quittez, et ça c'est important, vous quittez l'université et vous avez une certaine analogie. Voyez, dans l'université, ce qui est commun est premier. Et la diversité vient des différences spécifiques. Dans le développement de l'intelligence mathématique, morale, affective et artistique, vous avez l'inverse. La diversité est saisie en premier lieu. Et ça change tout. Vous voyez d'abord la diversité et à l'intérieur de la diversité, ce qui est commun. Vous voyez, c'est juste ce mouvement inverse de l'abstraction universelle. C'est un développement beaucoup plus qualitatif. Qui saisit la diversité, l'artiste. L'artiste saisit très fort le point de vue unique dans la diversité. Mais les trois saisissent la relation, l'art et la morale, la relation réelle, le matheux, la relation faite par la raison. Et trois, il nous donne le sens très aigu de la relation. La morale nous donne le sens de la relation par rapport à la finalité, l'artiste par rapport à l'harmonie et la beauté, et les mathématiques, la relation pour elle-même. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que les mathématiques, c'est là où la certitude est la plus puissante. La connaissance mathématique a ce privilège de montrer combien l'intelligence humaine est capable de progresser elle-même en se donnant son objet, en se créant son objet, parce qu'elle demeure dans le divisible, un divisible qui est pris pour lui-même. Tandis que dans l'art et tandis que dans la morale, l'intelligence ne se donne pas son objet. L'art doit respecter le caractère réel des relations qualitatives. Il y aura toujours une tentation d'idéaliser, mais l'artiste reviendra toujours à des relations réelles, qualitatives. Et le point de vue moral regarde le bien dans la fin. Et le bien dans la fin, justement, il s'impose à nous. Il y aura ensuite un troisième type d'abstraction qui se prendra non plus à partir de la quantité ou de la qualité, et qui se prendra dans la connaissance même de l'être. Et vous aurez ce type d'abstraction, l'abstraction philosophique. Et l'abstraction mathématique a cet immense avantage, c'est qu'elle va dominer sur toutes les sciences physiques, de plus en plus. Même quand vous étudiez l'homme, le module des mathématiques, l'homme est le point de vue art, l'art médical, le point de vue mathématique sera toujours plus puissant et se développera toujours plus. Et c'est extraordinaire comme les mathématiques, au point de vue extension, ont un pouvoir. Un pouvoir très particulier, c'est dans les connaissances mathématiques que nous avons un type de connaissance certain, le plus grand, la certitude. Pas l'évidence, mais la certitude. Et c'est le privilège mathématique, ça. Et c'est pour ça que j'ai une séduction des mathématiques très forte, parce que par les mathématiques, l'homme peut dominer tout le domaine quantitatif. Partout où la quantité existe, les mathématiques peuvent s'appliquer. Il n'y a que par rapport à la philosophie qui cherche la finalité et l'être, ce qui est et ce qui finalise l'homme, que les mathématiques doivent alors disparaître. Les mathématiques essaieront de s'emparer même de l'art. Ça se voit, ça. Et par rapport à l'architecture, qui est le principe dominant de l'art, les mathématiques vont s'imposer très fortement à cause des matériaux. L'usage des matériaux dépend forcément de la connaissance mathématique de ces matériaux. Et donc, voyez, en gros, nous pouvons dire qu'on a donc la connaissance de l'universel, des cinq modalités de l'universel, la connaissance formelle des mathématiques, de l'art et de la morale, et puis la connaissance tout à fait spéciale de l'être. L'artiste n'atteint pas l'être. Le moraliste n'atteint pas l'être. Il n'y a que le philosophe qui regarde ce qui est en tant qu'il est. Et nous avons alors ce nouveau type de connaissance qui est la connaissance philosophique, commandée par ce réalisme très particulier de ce qui est.